Alors, il y a quelques instants, hein, nous avons chanté ce cantique de Noël, Bethléem, toi la moindre des cités. Alors oui, j'ai fait exprès de choisir ce chant-là, hein, parce que effectivement, dans notre étude sur les raisons de croire, hein, pourquoi je crois, nous étions déjà en train de voir plusieurs prophéties. Hein, nous avons regardé les raisons de croire que la Bible est vraie par rapport à sa capacité. Une capacité incomparable, incontestable, extraordinaire de prédire des événements futurs. Et beaucoup d'entre ces prophéties ont été faites avec une grande précision. Et c'est ces prophéties-là que je veux souligner notamment parce que à la fois nous avons les Écritures qui nous parlent de bien, ces événements qui se sont bel et bien produits, mais l'histoire profane, comme on le dit, atteste aussi de ces différents événements prophétiques. Hein, nous avions donc vu la destruction de Tyr qui avait été prophétisée, également le prophète Ésaïe qui avait prophétisé concernant Cyrus, hein, plusieurs centaines d'années avant la naissance même, hein, de Cyrus, et eh bien que le roi de Perse, hein, proclamerait que eh bien tous les pays, et surtout le pays d'Israël, le peuple d'Israël, pouvaient retourner donc dans leur propre pays. Et ce soir, eh bien, nous allons porter nos regards sur la prophétie, une prophétie que nous trouvons dans le livre de Michée, hein, dans le livre de Michée, chapitre 5 et verset 1er. Nous avons cette prophétie sur une petite bourgade, un petit village du nom de Bethléem Ephrata. Et nous lisons ceci: Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Alors, quand Michée a exercé son ministère prophétique, eh bien, on se situe environ à 700 ans avant Jésus-Christ. Hein, rappelez, il faut se rappeler, pour certains, peut-être vous vous rappelez, pour d'autres, vous ne le savez pas, mais Michée était un contemporain, notamment du prophète Ésaïe, mais aussi du prophète Osée, hein, durant les règnes de Jotham, Achaz et Ézéchias. Et quand on regarde au livre de Michée, on se rend compte qu'il y a vraiment trois grandes parties dans cette prophétie, trois messages qui ont été délivrés, hein, de la part de Michée. Et l'intention de Michée, c'était surtout, bon, bien sûr, il a parlé de la destruction, hein, qui devait s'abattre sur le royaume du Nord, hein, sur le royaume d'Israël, mais il s'adresse surtout au royaume du Sud, hein, ce royaume de Juda dans lequel il exerçait son ministère. Mais les trois messages que nous trouvons dans ce livre de Michée montrer aussi que eh bien, le royaume du Sud, le royaume de Juda, eh bien, il était tout aussi coupable parfois que eh bien leurs voisins du Nord. Hein, en ce moment, on est en train de lire justement dans les Rois, hein, dans Deux Rois, et puis on se rend compte que oui, alors Israël, c'était toujours des rois exécrables. Dans le royaume du Sud, il y avait des rois qui étaient bons, parfois des rois mauvais, hein, et parfois c'était deux fois de suite, hein, des rois mauvais, mais on voit que même malgré le fait qu'il y ait eu des bons rois, on voit même chez ces bons rois le fait qu'ils n'ont pas été forcément jusqu'au bout, hein, dans, on va dire, la vie spirituelle à laquelle Dieu avait appelé le peuple d'Israël, parce qu'il y avait encore des traces d'idolâtrie, il y avait encore de l'idolâtrie même dans le royaume de Juda. Alors bien sûr, même si Michée a prophétisé donc sur cette destruction à venir, il insistait surtout sur eh bien, le fait que Dieu déjà veut que ben, les peuples se repentent, mais surtout il y a le fait que Michée présentait donc la restauration, hein, de la nation d'Israël dans son entier. Et il mentionne à plusieurs reprises, hein, ce reste de fidèles. Hein, parce que c'est pas tout le monde qui était mauvais, hein, c'était pas tout le monde qui était dans l'idolâtrie. Il y avait certains croyants qui étaient encore fidèles et entièrement consacrés à l'Éternel. Donc Michée, il avait cette assurance, en effet, que l'Éternel redonnerait un rôle prépondérant à Israël en tant que, eh bien, témoin pour les autres nations, et surtout pendant le règne à venir du Messie. Mais voilà, on a donc cette petite prophétie ici, dans le chapitre 5, concernant donc ce petit village de Judée, Bethléem Ephrata. Et même si on sait qu'il est communément reconnu que ceci est une prophétie messianique, et on va voir dans quelques instants pourquoi on considère ce passage comme une prophétie concernant le Messie, mais on a, par exemple, dans le Nouveau Testament, les chefs des sacrificateurs, les docteurs de la loi, qui voyaient même ce passage-là comme concernant le Messie. Je vous ai mis les passages, par exemple, dans Matthieu chapitre 2, lorsque le roi Hérode y reçoit les mages qui demandent où est le roi des Juifs, comme nous avons vu son étoile en Orient. Et Hérode, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Alors il fait appel à ses conseillers, à ses sages, et finalement on a les chefs religieux qui vont venir et lui apporter cette réponse. Et vous voyez, au verset 5, la question, au verset 4, on va dire, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître, du lieu où le Messie devait naître. Et lui dire, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc on a ici une paraphrase, si vous voulez, de la prophétie que nous trouvons ici en Michée, chapitre 5 et verset 1er. Donc, les religieux à l'époque de Jésus comprenaient que ce passage ici, eh bien, concernait le Messie. Ensuite, même le peuple était au courant de cela aussi, parce que bon, les chefs religieux, ils enseignaient aussi, ça leur arrivait, et au peuple également d'être sous cet enseignement-là. Mais si on regarde dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 7, les versets 40 à 42, alors, la foule qui entend Jésus parler, ils sont surpris. Verset 40 nous dit, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Donc c'était quand même une information qui était assez répandue et commune à l'époque de savoir que le Messie devait effectivement naître de cette ville, de ce village de Bethléem. Mais là, ils étaient dans la confusion. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus venait de Nazareth en Galilée. Et pour lui, il était forcément né à Nazareth en Galilée. Et on le sait d'après les récits que nous trouvons dans les évangiles, que Jésus est effectivement né à Bethléem et que cela correspond effectivement donc à cette prophétie que nous trouvons dans Michée chapitre 5 et verset 1er. Mais en regardant bien ici à ce que ce passage de Michée nous dit, il nous parle d'un dominateur, quelqu'un qui va régner, quelqu'un qui va être au-dessus des autres, et ce dominateur quand même possède certaines caractéristiques qui ne peuvent pas être humaines. Relisons un peu ce qu'il dit. Celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Ça ne peut pas correspondre à un être humain, n'est-ce pas? Surtout que cette expression des temps anciens est toujours liée à Dieu. L'éternité toujours liée à Dieu. Pouvez prendre le temps de comparer justement avec l'introduction que Jean y fait dans son évangile, le chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et en continuant de lire ce que Jean nous dit, il parle de Jésus. Et donc, cette idée que, effectivement, Jésus, il est la parole, que Jésus est celui par qui toutes choses ont été créées, ça nous ramène justement à ces activités, aux temps anciens, à ces jours de l'éternité. Mais Michée apporte aussi cette précision concernant Bethléem qui est intéressante. Michée nous parle de ce Bethléem, mais il ajoute aussi ce mot Ephrata avec Bethléem. Pourquoi? Parce qu'en effet, il existait deux endroits, deux lieux qui étaient connus sous le nom de Bethléem. Et ça, bon, l'archéologie l'atteste. Hein, nous comprenons donc qu'il y avait Bethléem en Juda, mais qui se trouvait pas loin de Jérusalem, hein, 8 km de Jérusalem. Et ensuite, il y avait une autre Bethléem qui existait également, hein, dans le nord du pays. Mais on a cette précision de Bethléem Ephrata. Et ça, c'est également lié à d'autres prophéties concernant le Messie, parce qu'on comprend que le Messie devait être de la lignée royale de David. Et Bethléem Ephrata se trouve être justement le lieu de naissance du roi David. C'est de cette bourgade hein, que sa famille est venue. Mais ce que j'aimerais noter également, avant d'aller plus loin sur cela, c'est que même dans l'Ancien Testament, peut-être qu'on ne fait pas trop attention. Des fois, on lit, bon voilà, c'est comme ça que c'est écrit, et on ne réfléchit pas plus que cela. Mais plusieurs passages de l'Ancien Testament apportent une précision. Quand Bethléem est mentionné, hein, par exemple dans des passages comme Juges à plusieurs reprises hein, fait cette mention-là, mais Juges 17, verset 7, nous dit « Il y avait un jeune homme de Bethléem, de Juda. » Alors pourquoi rajouter de Juda s'il n'y avait peut-être pas une autre Bethléem quelque part? Il n'y a pas besoin de mentionner, de faire cette précision-là s'il n'y a pas une autre ville qui s'appelle Bethléem. Aujourd'hui, par exemple, si on parle de Paris, la première référence que l'on a, c'est Paris, la capitale de la France. Mais Paris, il en existe partout dans différents pays. À travers les États-Unis, il y a plusieurs États, ils ont une ville qui s'appelle Paris. Hein, et puis même Bethléem, hein, on retrouve Bethléem aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie. Mais voilà, dans Juges, tout comme dans Ruth, chapitre 1er, verset 1er, il y avait là aussi, hein, concernant hein, cet homme de Bethléem, de Juda, hein, qui est parti avec sa femme et ses deux fils pour faire séjour dans le pays de Moab, donc le beau-père, hein, finalement, hein, de Ruth, qui était donc de Bethléem, de Juda. Vous avez également 1 Samuel 17, hein, verset 12, qui parle justement donc de David, David qui était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda. Donc Éphrata, c'était vraiment un petit peu une petite région. Hein, c'était vraiment ce qui entourait hein, ce village de Bethléem. Et donc David donc était de Bethléem de Juda. Hein, son père nommé Isaïe avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge, nous dit donc ce passage. Donc on a Michée qui spécifie donc que Bethléem en Judée, hein, Bethléem de Juda, devait être la ville où eh bien viendrait donc celui qui dominera sur Israël, celui dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc on comprend que ici on a cette prophétie concernant le lieu d'où venait le Messie. Alors, pas forcément besoin encore une fois de retourner dans les évangiles hein, pour comprendre que Bethléem Ephrata est bien le lieu de la naissance de Jésus-Christ. Et sinon, nous avons également une prophétie, et celle-là, bon, elle va nous demander un peu plus de réflexion, hein, elle va nous faire un peu réfléchir un peu plus que les autres. Mais dans le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, nous avons aussi une prophétie concernant le Messie, mais surtout concernant sa mort et même sur l'époque à laquelle devait se produire la mort du Messie. Alors le livre de Daniel, il comporte beaucoup d'éléments historiques hein, de la période de l'exil à Babylone, mais il apporte aussi des prophéties qui sont messianiques et des prophéties qui sont eschatologiques, donc ce sont des choses qui sont encore à venir, même futures par rapport à nous. Alors, quelque temps avant 500 avant Jésus-Christ, le prophète Daniel reçut une révélation fascinante, mystérieuse, de la part de l'ange Gabriel. Et nous retrouvons cette prophétie donc dans Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27. Et il s'agit de cette prophétie sur les 70 semaines. Lisons donc ce passage. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser tes transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors, ce passage de Daniel, beaucoup se grattent bien la tête pour essayer de déterminer ce dont il est question. Et c'est vrai que dans le milieu chrétien, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce que ces prophéties concernent, mais ce qui, on va dire, va faire davantage l'unanimité, c'est qu'on a ici une prophétie qui parle donc de ce moment où le Messie donc sera retranché, enlevé, retiré. Et donc par logique, on estime que cette prophétie concerne donc la mort de Jésus-Christ. Les événements qui sont divulgués ici dans cette prophétie donc nous font bien comprendre qu'il s'agit d'une prophétie messianique. Hein, il y a plusieurs éléments. On va pas forcément prendre le temps de tout aller en détail là-dedans, mais quand on y pense, hein, il parle de la fin des transgressions et des péchés, de l'expiation de l'iniquité, de la mise en place d'une justice éternelle, de l'accomplissement, hein, de la vision et du prophète, l'onction du Saint des Saints. Et on comprend bien que ces événements-là sont des événements qui sont liés dans leur nature et bien à l'œuvre du Messie. En faisant une lecture stricte du passage, 70 semaines après la proclamation de la reconstruction du temple à Jérusalem, donc tous ces événements se seraient produits. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, soit la prophétie des 70 semaines ne s'est pas réalisée, soit nous devons l'étudier de plus près et peut-être l'aborder d'un angle différent. La clé pour comprendre ici cette prophétie réside dans ce que c'est que ces semaines. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Quand on étudie le mot hébreu qui est employé ici pour semaine, on découvre que effectivement, ce dont Daniel parle ici, ce sont encore des événements très futurs par rapport à lui. Et certains d'entre eux, même encore très futurs par rapport à nous. Mais le mot semaine en hébreu, c'est le mot shebua, qui peut se traduire effectivement par semaine, ou qui parfois est traduit par le mot 7, hein, le chiffre 7. Et ça, c'est important de prendre ça en considération. Genèse chapitre 29, verset 27, par exemple. On a le même mot qui est employé pour décrire deux choses différentes. Hein, ici, hein, nous lisons achève la semaine avec celle-ci, hein, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Le même mot est employé pour parler de semaine, mais aussi pour décrire 7, le chiffre 7. Et donc dans ce passage de Genèse, ce mot signifie donc à la fois semaine, mais aussi le chiffre 7. Un théologien, hein, du XIXe siècle, il a dit ceci. La semaine s'appelle en hébreu une septaine et quelquefois aussi un sabbat. Très intéressant. Et il donne l'exemple hein, de ce pharisien orgueilleux dans Luc chapitre 12, chapitre 18, pardon, et verset 12, qui dit: je jeûne deux fois par sabbat, deux fois par sabbat. Alors c'est soit tu jeûnes toute la journée, hein, ou tu ne jeûnes pas, mais tu peux pas dire je jeûne deux fois dans la journée, parce que ça revient à dire, bah, à faire comme les autres, hein, parce que tout le monde jeûne deux fois par journée, ouais, entrecoupé d'un bon repas, et même plusieurs fois entrecoupé de repas. Mais moi, je pourrais dire aussi, hein, je jeûne, on va dire, une, deux, trois, quatre fois dans la journée, si vous voulez. Mais on comprend bien ici que il s'agit plus qu'un sabbat. Alors maintenant, si vous regardez à ce verset, hein, dans vos traductions françaises, vous aurez le mot semaine et non pas sabbat. Mais quand on regarde dans le grec, par contre, on a autre chose ici. On a le mot sabbaton. Hein, c'est une translittération du mot sabbat. Et donc on comprend que ce qui signifie ici, c'est bien le mot semaine. Alors ce mot hébreu contient surtout l'idée donc d'une période de 7. Hein, parfois, certains vont l'appeler une septaine, d'autres vont l'appeler une heptade, hein, du terme grec pour sept. Mais voilà, dans toute interprétation de texte, eh bien, le contexte doit être pris en compte, mais aussi les significations possibles des mots doivent être pris en compte. Si on prend donc en considération que lorsque Daniel nous parle de semaine, cela se réfère donc peut-être à une période de 7, mais de 7 quoi? Ça va être aussi important de comprendre ce dont il s'agit. Mais voilà, ça va apporter une autre perspective à cette révélation. Et comme hein, évoqué plus tôt, hein, d'un point de vue historique, ça peut pas être eh bien une heptade de jours, hein, ça peut pas être 7 jours, hein, une semaine comme nous les connaissons. Par contre, si on les considère cette fois-ci comme peut-être des heptades d'années, parce que oui, dans d'autres passage, on comprend que parfois le mot est employé pour décrire donc une période de 7 ans. Et à ce moment-là, on arrive à une des conclusions les plus extraordinaires concernant effectivement ce moment où le Messie serait retranché. Alors déjà, on va récapituler un peu ce que Daniel nous dit dans ce passage. Tout d'abord, eh bien, on a une prophétie qui englobe 70 semaines, comme on le voit au verset 24. Et ces 70 semaines sont elles-mêmes découpées en deux grandes parties, parce qu'il est question de 7 semaines plus 62 semaines hein, dans le verset 26. Et ensuite, dans le verset 27, il est question d'une semaine qui elle-même, on a vu qu'au milieu de cette semaine-là, il y a un événement important, marquant qui se produira. Mais les 69 semaines donc débutent avec la proclamation de la reconstruction du temple et de ce moment-là jusqu'au Messie. Donc on a cette période de temps qui est caractérisée par 69 semaines. Et donc au terme de ces 69 semaines, il nous est dit que le Messie sera retranché, que Jérusalem et le Temple seraient détruits. Et donc cette 70e semaine, hein, est caractérisée, elle, par une alliance qui sera rompue en plein milieu de cette semaine. Il est question du dévastateur, hein, qui fera cesser les sacrifices et les offrandes et qui commettra des choses abominable. Et même si cette 70e semaine est un sujet fort intéressant à étudier, ce n'est pas l'objectif qui nous intéresse ici. C'est bien cette période de 69 semaines qui nous intéresse. Pourquoi? Si on prend le temps, le terme semaine comme désignant donc une période de 7 ans, on peut parvenir à établir donc le nombre d'années entre la proclamation de la reconstruction du temple et donc le retranchement du Messie, que nous comprenons comme étant la mort du Messie. Donc c'est là où ça devient, il faut un peu réfléchir, hein, même moi il a fallu faire quelques maths ici pour bien comprendre tout ceci, mais ces 69 semaines correspondent donc à 69 périodes de 7 années. Donc on va multiplier 69 par 7 et on va obtenir le chiffre 483. Donc il est question ici apparemment de 483 années. Daniel nous informe qu'il y aurait 483 ans depuis la proclamation de la reconstruction du temple jusqu'au retranchement du Messie. Alors on dit, ça y est, on a la date. On peut savoir. Pas tout à fait encore. Parce que quand on étudie bien cette période historique, on sait qu'il y a eu plusieurs proclamations qui ont été faites pour la reconstruction du temple. On a vu la dernière fois, le premier décret qui avait été ordonné pour la reconstruction du temple était fait par Cyrus, quelque part en 538 avant Jésus-Christ. Un deuxième décret fut lui prononcé par le roi Darius Ier en 520 avant Jésus-Christ, et en fait ce décret n'était qu'une confirmation du premier décret fait par Cyrus. On arrive à une troisième proclamation, cette fois-ci d'Artaxerce, qui, en 458, donc, va proclamer que le temple devait être rebâti à Jérusalem. On retrouve ces informations dans les livres d'Esdras, notamment, de Chroniques également. Mais voilà, les deux premiers décrets concernaient donc la reconstruction du temple de Jérusalem, et le troisième donnait les informations par rapport aux finances, comment ça allait être financé pour les sacrifices d'animaux dans le temple. Et donc ces trois édits ne disent rien sur la reconstruction de la cité elle-même, mais on comprend que puisqu'une ville sans muraille, c'était pas une menace pour une puissance militaire, donc un temple religieux pouvait être reconstruit sans mettre en péril l'autorité militaire de Babylone, de ceux qui autorisaient sa reconstruction. Mais aucune de ces trois ordonnances n'était donc le décret qui lançait donc ce début des 70 semaines. Et on arrive finalement à un autre édit, toujours de Artaxerce, mais celle-ci faite, et les historiens ont planché là-dessus, et ont même déterminé la date du 5 mars 444 avant Jésus-Christ, en se basant notamment sur ce que Néhémie nous dit au chapitre 2, les versets 1 à 8. Et donc à cette occasion-là, Artaxerce donne aux Juifs l'autorisation de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et donc c'est ce décret-là qu'il faut prendre en considération pour comprendre, pour établir une date assez précise du retranchement du Messie. Alors il convient de noter plusieurs éléments et informations importantes. Alors, on a cette date de 444 avant Jésus-Christ. On a ce nombre d'années de 483. Et si, on fait le calcul, on obtient, l'an 39 après Jésus-Christ. Alors ça nous semble un peu trop tardif. Mais on reste quand même dans la marge qui correspond effectivement à la date de la crucifixion. Mais la chose qu'il faut faire attention, c'est que les Juifs n'employaient pas le même calendrier que nous. Déjà, ils avaient un calendrier qui était basé sur la Lune. Nous avons un calendrier qui est basé sur le Soleil. Le calendrier juif comportait 360 jours, tandis que le nôtre, 365. Et donc, il faut prendre ça aussi en considération quand on fait tous ces calculs, pour établir la date que nous cherchons. Mais si on fait ce calcul de multiplier donc 360 par 483, et là, on obtient donc un total de 173 880 jours. Et c'est ça qui va nous permettre d'arriver à une date assez précise finalement. Parce que si on applique cela à notre système calendaire, tout en n'oubliant pas que notre calendrier, il y a des années bissextiles, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas non plus de l'an zéro dans notre calendrier. On passe de moins 1 à 1. Ça, beaucoup de gens l'ignorent. Mais à ce moment-là, on obtient une date qui se situe au mois d'avril de l'an 33 après Jésus-Christ. Et tout ceci se trouve être en accord justement avec la date qui est communément acceptée pour la crucifixion de Jésus-Christ. Déjà, il y a un certain nombre de facteurs qui nous permettent de déterminer l'année de la mort de Jésus. On calcule que, par exemple, que Jean-Baptiste a commencé son ministère vers 28-29 après Jésus-Christ, et en nous basant donc sur la note historique que Luc y fait dans son évangile, selon laquelle Jean a commencé à prêcher la 15e année du règne de Tibère. Alors ça, déjà, on va pouvoir au ciel remercier Luc de nous avoir apporté toutes ces informations historiques, parce qu'elles nous permettent d'établir des dates. Et donc, avec cette information-là, eh bien, On sait que Tibère a été nommé empereur en l'an 14 après Jésus-Christ. Et donc, si Jésus fut baptisé et commença son ministère en l'an 29 après Jésus-Christ, il a exercé son ministère pendant environ 3 ans et demi, hein, selon ce qu'on comprend dans les Écritures. Alors, la fin du ministère de Jésus-Christ aurait lieu, eh bien, vers l'an 33 après Jésus-Christ. Ensuite, on sait également que Ponce Pilate a gouverné la Judée de 26 à 36 après Jésus-Christ. On sait que la crucifixion a eu lieu pendant la Pâque, hein, selon ce que Marc nous dit, et en tenant compte de cela et de la date à laquelle Jean commença son ministère, eh bien là, ça nous permet même de fixer une date de crucifixion au 3 avril de l'an 33. On arrive donc de manière assez extraordinaire, par ce biais-là, à 483 ans, précisément, après le décret d'Artaxerce, qui a été fait, comme il est dit dans les Écritures, au mois de Nisan. Le mois de Nisan, dans le calendrier hébreu, correspond à mi-chemin, à mi-cheval, à cheval, si vous voulez, entre mars et avril. Alors, je suis pas de celui du genre, pour ceux qui me connaissent, je suis pas du genre à aller chercher partout des trucs bizarres dans la numérologie, dans les trucs comme ça dans les Écritures, et à essayer de tordre les sens et machin pour forcer quelque chose dans les Écritures. Mais effectivement, quand on ne comprend pas ce dont il est question par le mot semaine, parce que historiquement, aucune des choses que la prophétie apporte, ça n'a pas été fait dans les 70 semaines qui ont suivi la proclamation faite par Gabriel à Daniel. Donc il nous faut trouver une autre explication à ce mot semaine. Et sur la base des autres passages qu'on voit dans les Écritures, sur la notion même que le mot en hébreu peut signifier une semaine de 7 jours, peut signifier une période de 7, peut être même appliqué à une période de 7 années. Alors là, moi je ne peux pas dire que c'est une coïncidence. De voir que, bah, par rapport à toutes ces informations que l'on a là, qu'on parvient. Alors, je sais bien, je comprends bien que Daniel n'a pas compris ces choses-là, forcément. Que tous ceux qui ont lu le prophète Daniel, hein, pendant toute cette période de Daniel jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, je suis sûr que beaucoup n'ont pas compris ce dont il s'agissait. Et ça, c'est une des choses que je trouve également extraordinaire avec les Écritures, c'est que on pense toujours les prophéties, ah, c'est pour les gens de cette époque-là. Mais en fait, les prophéties sont pour les personnes de toutes les époques. Et nous avons cet apport extraordinaire aujourd'hui, hein, avec la Bible, d'avoir ces informations qui sont à notre portée, que eux n'avaient pas, et de pouvoir regarder ces choses-là et nous dire, c'est extraordinaire. La précision que nous pouvons trouver dans les Écritures, hein, quand on amène toute cette connaissance que les uns et les autres ont de l'enseignement des Écritures, de la langue, etc., et de voir ces précisions dans les prophéties que nous trouvons dans la Bible. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce que nous avons vu ce soir?